ici quelques annonces. C'était le 21 dimanche après la Pentecôte. J'ai apporté quelques bulletins de Scutum Fidei et puis aussi quelques livres. En particulier, il n'y en a que deux. Peut-être une prochaine fois j'apporterai plus. Les commentaires Ellison de Monsieur Williamson, le tome 1 est sorti et j'ai su avant-hier que le tome 2 est sorti également. Donc c'est Monseigneur Williamson, chaque semaine, pendant des années, une trentaine d'années, a fait un petit bulletin électronique de deux pages à quatre recto verso, là, et chaque semaine. Donc c'est un trésor, une mine sur tous les sujets spirituels, également politiques, financiers. Donc c'est un trésor. Je partirai assez rapidement après la messe parce que je vais faire un petit séjour dans la perfide Albion, justement, en Angleterre, pour une retraite que prêche Monsieur Morgan. Il m'a dit, il m'a rassuré en disant qu'elle sera en français ou en franglais, je ne sais pas. Il y aura quelques prêtres, justement, nous serons dans la maison de Monsieur Williamson, donc à Bodsters, au sud de l'île. Donc je prends le bateau à Caen, 6 heures de traversée, prions pour qu'il n'y ait pas trop de tempête. Et puis ensuite, 3 heures de route pour me rendre, je vais arriver ce soir à minuit environ, là-bas. En roulant à gauche, prier pour que les ronds-points dans le bon sens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous venons de commencer le mois de novembre. Novembre est dédié aux hommes du purgatoire. Et aujourd'hui, 2 novembre, les défunts, donc, puisque c'est un dimanche, nous prierons spécialement les messes des âmes du purgatoire sont demain et pas aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas dire messe de requiem le dimanche. Pensons bien à prier pour ces pauvres âmes. Et je voudrais faire un sermon en forme de catéchisme, justement, sur le purgatoire. Qu'est-ce que le purgatoire? Un lieu et l'état où souffrent les âmes des justes morts, en état de grâce. Une grande différence entre l'enfer et le purgatoire et son état de grâce. Mais ils eurent encore l'obligation de subir une peine temporelle due à leur péché. Véniel, non encore remis, ou péché mortel, ou véniel, remis, mais pas encore suffisamment expié. Alors est-ce que c'est un dogme de foi, le purgatoire? Oui, affirmé infailliblement par l'Église au deuxième concile de Lyon, 13e siècle, Concile de Florence, 15e siècle, et le Concile de Trente, au 16e siècle, contre justement l'hérésie luthérienne, qui niait le purgatoire, tout simplement. Et puis la liturgie, donc le dogme avec les conciles, et la liturgie. Le fait que l'Église, dans sa prière publique, depuis tant de siècles, avait des suffrages pour les âmes au purgatoire, est une preuve irréfutable l'existence de ce lieu de purification. L'Église a défini cela par les conciles, la liturgie, mais est-ce qu'il y a une source scripturaire? La Sainte Écriture, oui, dès l'Ancien Testament. Le passage le plus clair sur ce sujet, c'est au livre des Maccabées, où Judas Maccabée, je cite, « ayant fait une collecte où il recueillit la somme de 2000 drachmes, l'envoya à Jérusalem pour être employé à un sacrifice expiatoire pour les morts. » Donc il y a beaucoup de morts dans ce combat contre Antiochus Épiphane. Judas Maccabée, on a une figure extraordinaire de foi, de force. Ils seront tous martyrs, les sept frères Maccabées, et leur mère en dernier lieu, leur maman qui les exhorte, ces frères Maccabées, à mourir pour le vrai Dieu, contre le roi impie. Voilà. Alors, saint Thomas d'Aquin, à ce sujet, dit « On ne prie ni pour les morts qui sont au ciel, ni ceux de l'enfer. » Donc, c'est les morts du purgatoire. C'est justement un passage que Luther a supprimé de ses Bibles. Comme il ne croit pas à la prière pour les âmes des défunts, elles sont soit au ciel, soit en enfer. Pour lui, il n'y a pas de purgatoire. Donc, il y a des phrases des Maccabées, eh bien on les supprime en disant « ça c'est apocryphe, c'est facile, c'est malhonnête. » Ce n'est pas les seuls passages que Luther à circuler dans Sainte Écriture. Donc ça pour l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, saint Paul aux Corinthiens dit ceci: « Le feu éprouvera ce qui est l'ouvrage de chacun. » Éprouvera, donc vous voyez, c'est au futur. L'ouvrage de chacun, c'est les œuvres. Bonnes, mais à purifier. Mauvaises, purifiées par le sacrement de pénitence, mais pas encore expiées. Pardonner, mais pas expiées. Justement, comment peut-on justifier raisonnablement cette existence du purgatoire? Eh bien, il arrive souvent que la peine due à nos péchés, déjà pardonnés, reste encore à subir, au moins en partie. L'âme est aussi, parfois, avec des mauvaises dispositions dues à l'habitude de certains péchés. Ces mauvaises dispositions sont comme une rouille sur l'âme que le feu du purgatoire va purifier, un peu comme l'or. L'or en terre est terne, et pour le rendre brillant, comme il est, eh bien, il faut le feu. Le feu. Donc c'est dur, effectivement, le feu qui purifie cette chose très précieuse qu'est l'or, mais sans le feu, l'or resterait terne. Nos âmes également. Nos âmes très belles, et c'est le feu du purgatoire qui va purifier ces âmes. Alors, il y a différentes peines au purgatoire. La peine la plus douloureuse pour ces âmes, c'est de ne pas voir Dieu en face, face à face. On appelle ça la peine du danf. La peine d'essence, plus tard, on va voir. La peine du danf, c'est-à-dire ne pas voir Dieu en face. Il y a l'espérance au purgatoire. L'espérance de voir Dieu un jour. C'est pas comme en enfer. Les hommes en enfer n'ont aucune espérance, et qu'un désespoir profond et pour l'éternité. La peine du danf total. Mais au purgatoire, il y a cette peine du danf aussi, mais elle est temporaire, bien qu'il n'y ait plus de temps au purgatoire, parce qu'on est hors du temps, fixé dans ce présent qui ne finira pas. C'est compliqué pour nous de parler de cela, parce qu'on n'a pas la notion de ce qui n'est pas le temps. On vit dans le temps. Le temps, c'est la succession des mouvements. Avant, maintenant, après. À ce moment-là, eh bien, il n'y a plus l'avant, l'après. C'est comme si vous avez une horloge et les poids sont en bas et il n'y a pas de remontoir. Elle est fixée sur midi. Il n'y a rien à faire. Plus de balancier. Le temps du balancier. C'est une grande leçon aussi. Une horloge. Le temps, le tic-tac du temps qui passe. Mais là, c'est fixé. Plus de temps. Le présent. Présent pour toujours. Nous avons bien du mal à concevoir, à imaginer cette réalité, mais c'est ça. Donc cette peine la plus douloureuse du purgatoire, c'est ne pas voir Dieu. Le temps des illusions est terminé. Aucune créature ni occupation ne peut détourner l'âme de cette vérité essentielle. Elle est faite pour Dieu. Elle devrait le voir et en avoir un bonheur inimaginable, mais par sa faute, elle ne le voit pas encore. Prenons quelques exemples pour comprendre un peu cette vérité. Imaginons que nous attendons quelqu'un à une heure précise pour traiter une affaire très grave et il n'arrive pas. Il va arriver, on l'espère, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. On m'a raconté qu'au Mexique, les prêtres étaient au Mexique, pour la mission du Mexique. Il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent pour le mariage, parce que, disons que le mariage est à 9h du matin, si les mariés sont pas là à 3h de l'après-midi, c'est pas très grave. 6h d'attente. Donc, au Mexique, c'est la coutume, voyez-vous. Bon, en France, on est un peu plus réglo, et que la Suisse, alors là, à la seconde près. À la seconde près. Et voyez le retard. On attend quelqu'un, il n'arrive pas. Il va arriver quand même. Bon, purgatoire, c'est une petite image. Quelque chose de plus sensible encore. Imaginons encore qu'un jour où nous avons très faim, le repas est retardé de plusieurs heures. Ça, c'est difficile. Je vous laisse imaginer. Et on ne sait pas quand ça va arriver. Et pourtant, l'horloge de l'estomac, là, elle tourne à vide. À vide. Petites images, très pâles, par rapport à la vérité. Oui, une idée bien faible de la souffrance des âmes du purgatoire. Car De même que la joie la plus grande pour l'âme ne peut venir que de la vision de Dieu, qui seul peut la combler. La douleur la plus grande vient du retard de cette vision. Que penser, a fortiori, pour la douleur des âmes en enfer, qui ne verront jamais Dieu. Ça, c'est horrible. Mais déjà, pour le purgatoire, elles ne savent pas quand leur délivrance aura lieu. Et puis, après cette peine du don, donc de ne pas voir Dieu, la vision de Dieu, la jouissance de Dieu, il y a aussi la peine des sens. C'est elle qui fait réparer l'attachement désordonné qu'on a pu avoir parfois sur cette terre pour certaines créatures. L'Église enseigne communément que c'est une peine du feu. Là aussi, c'est bien compliqué, parce que, à comprendre, mais c'est vrai. C'est vrai. L'âme purgatoire n'a pas encore son corps, et elle brûle pour autant. Des apparitions authentiques d'âmes du purgatoire l'ont confirmé que c'est une peine du feu. Si vous allez un jour à Rome, au Vatican, il y a un musée du purgatoire qui contient des objets brûlés au contact d'âmes du purgatoire au cours d'apparitions certifiées. C'est impressionnant. Impressionnant. De voir l'effet du feu. Cependant, est-ce qu'il y a au purgatoire une joie? Oui, ça c'est très important. Il y a une joie indicible, parce que c'est l'espérance. L'espérance d'être sauvé en puissance. Pas encore en acte, mais c'est proche. En puissance parce que ce n'est pas encore le fait. Mais on sait qu'un jour ce sera exact. On sait qu'un jour on verra Dieu face à face, dans un bonheur indicible, pour toujours, une paix, une joie, un bonheur, une charité qui déjà existe au purgatoire. C'est très important. Et cette joie du purgatoire surpasse toutes les joies de la terre, parce que ce sont des joies spirituelles, et pas entremêlées de peines terrestres. La terre est finie. Alors, on a du mal peut-être à faire coïncider, à faire comprendre dans nos âmes cette coexistence justement de la douleur et de la joie. Les âmes du purgatoire offrent volontairement leur souffrance. Donc elles acceptent cette purification. Ce n'est pas un boulet qu'on traîne malgré soi. Non, elles l'offrent. Il y a une grande différence entre traîner et porter. Quand on traîne quelque chose, c'est encore plus lourd que si on le porte. Parce qu'il y a la terre qui peut-être vous... qui entrave le fait d'acheminer un objet d'un point à un autre. Et aussi, ces âmes ne voudraient pas paraître devant le bon Dieu, trois fois saint, sans être parfaitement pures. Elles savent qui est Dieu. Elles connaissent la sainteté de Dieu. Donc, elles désirent aller au ciel. Mais elles ne désirent pas y aller sans être parfaitement purifiées. Donc, c'est une purification pleine de douleur et de joie à la fois. Et leur joie augmente d'ailleurs au fur et à mesure que leur purification approche. Il y a une purification successive des âmes purgatoires. Que peut-on pour nous-mêmes tirer de cette méditation? Puisque nous sommes encore dans le temps, nous avons le temps de réfléchir. C'est une grande grâce sous la miséricorde du bon Dieu. Ah oui, important pour le purgatoire, la miséricorde ne s'exerce plus au purgatoire. C'est la justice de Dieu. Ici-bas, c'est la miséricorde essentiellement du bon Dieu qu'ils exercent, notamment par les confessions, les bonnes œuvres, les aumônes, les messes qu'on fait célébrer pour les âmes du purgatoire, et pour nous aussi, bien sûr. Alors, on peut en tirer un sens plus profond de la sainteté de Dieu. Une plus grande ferveur dans le service de Dieu et du prochain. Un plus grand zèle pour éviter le péché. Et déraciner nos mauvaises habitudes. Déraciner les mauvaises habitudes. Et ça, on commence ça dès l'enfance. On déracine. C'est plus facile quand on est enfant de déraciner un arbre que quand il a déjà 20 ans. Impossible. À la main, il faut une pelleteuse. On ne peut pas y arriver. sans outil. Alors qu'un petit arbre qu'on a planté il y a 15 jours, on peut l'enlever facilement. Parce que les racines, elles sont tendres. Les défauts des enfants sont encore tendres, façon de parler. C'est jamais tendre, un défaut. Mais c'est encore frais. Donc il faut le déraciner, sans se décourager. Après, le travail pour les parents. Et pour l'enfant aussi, de faire, bien sûr. Et puis aussi, un désir de réparer nos péchés dès maintenant. Quand on peut le faire, on peut mériter et satisfaire, tandis que, après, obligatoire, c'est impossible. On ne peut pas faire par nous-mêmes. On est prisonniers. Elles peuvent souffrir uniquement, pâtir, attendre, en espérance, mais elles ne peuvent rien faire pour elles, comme des prisonniers enchaînés qui attendent tout du prochain. Allez-vous ? C'est très important. Et la liturgie traditionnelle marque parfaitement bien cette existence, cette dévotion aux âmes du purgatoire, ce soulagement qu'on veut avoir pour ces pauvres âmes. Et la nouvelle messe a bien effacé. Elle a édulcoré cette exigence divine. Pourquoi ? Pour plaire aux protestants, bien sûr. Avec l'œcuménisme, on veut plaire aux religions qui ne sont pas catholiques, aux fausses religions par conséquent. Et pour ne pas leur déplaire, on fait croire à tous qu'on ira tous au paradis. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'enfer. Le ciel pour tous. On est tous sauvés. À quoi servent nos efforts ? À rien. Allez dans les enterrements, dans les églises actuellement. Qui parle ? Quel prêtre parle encore de l'enfer et du purgatoire ? On ne dit que les belles actions du défunt, de la défunte, de ce qu'il a fait, de ce qu'il aurait pu faire, de ce qu'il n'a pas fait aussi, etc. Mais que du bien, du bien, du bien. Jamais de prier pour les âmes des défunts. Eh bien, c'est un manque grave à la charité pour ces pauvres âmes. Alors qu'il y a, parfois les églises sont remplies, eh bien, on pourrait prêcher sur les vérités éternelles, qu'elles n'entendent pas autrement. On ne le dit pas. C'est un manque à la charité. Et la justice aussi, pour ces pauvres âmes. Dans l'éthologie rénovée des défunts, on ne parle plus de l'enfer. Les phrases qui font clairement référence au purgatoire, lieu de souffrance et de réparation, supprimées. Dans les oraisons, on n'enlève même plus le mot âme. Beaucoup de cérémonies, notamment actuelles, ressemblent à des cérémonies de canonisation où les défunts sont déjà dans la lumière du Père. Voilà. La lumière du Père. C'est tout dire. Ils sont au ciel. Ils sont au ciel. C'est grave de dire cela. Est-ce qu'on peut aider les âmes de purgatoire ? Bien sûr que oui, on peut les aider par la communion des saints. L'Église est une. Il y a trois parties. L'Église militante, c'est nous. Par la foi, la charité. L'Église militante, nous sommes des combattants. L'Église souffrante, le purgatoire. L'Église triomphante, c'est la même Église. Une seule Église. Mais trois parties. Militante, souffrante, purgatoire, triomphante. On fêtait hier à Toussaint l'Église triomphante. La joie pour toujours. Et pour ces âmes, notre Seigneur a dit « Bienheureux, la béatitude ». Donc demain, 3 novembre, au lieu du 2, aujourd'hui, comme j'ai dit, eh bien, l'Église souffrante, l'Église des âmes en état de grâce, qui souffrent pour expier leurs péchés pardonnés. On peut les aider, ces âmes, par nos prières, nos bonnes actions, sacrifices, en gagnant des indulgences pour elles, en visitant un cimetière, en priant pour elles. Visitons les cimetières toute la semaine, chaque jour. Nous pouvons obtenir pour elles une indulgence plénière. C'est-à-dire que par nos prières, qui est en état de grâce, avec la communion aujourd'hui, la confession qu'on a pu faire aussi dans les 8 jours, eh bien, on peut délivrer une âme du purgatoire. Quel trésor ! On a un levier puissant par nos prières, nos bonnes œuvres, faire des messes également. On fait dire des messes pour les âmes du purgatoire, c'est très important. Donc soyons pleins de charité, mes bien chers frères, pour ces pauvres âmes. Aidons-les. Aidons-les. Et comme elles sont pleines de reconnaissance pour nous-mêmes, vous voyez, c'est un bon commerce. Ce n'est pas un petit commerce d'épicier. C'est pas vénal du tout. Mais c'est un commerce de charité. ces âmes qu'on aura aidées ici-bas, pour elles, sont dans l'au-delà, une fois rendues au ciel, que feront-elles? Elles vont nous aider encore plus puissamment à nous aider pour déraciner nos mauvaises habitudes, pour vivre dans la charité divine, pour pratiquer les vertus, pour lutter contre nos défauts, nos péchés, nos faiblesses, nos tentations. Elles nous aideront. Voilà, c'est l'Église, militante, souffrante, triomphante. Prions pour ces pauvres âmes, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.